Chapitre 10. Lui dit à Saül, raconte à Saül un assez long récit où lui donne des instructions de ce qui va se passer. Et parmi ces instructions détaillées, que en les lisant à la première vue, c'est parfois c'est un peu difficile de savoir quelle est la signification de tout ça, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Samuel donne ces indications à Saül? Ça, c'est la question ce matin, même le fardeau. Tout ce que, quand nous lisons la Bible, nous devons toujours nous poser la question, surtout dans l'Ancien Testament. Est-ce que nous pouvons trouver Christ ici? Ou est-ce que nous pouvons connaître le Seigneur? Comment est-ce que Dieu se révèle-t-il dans n'importe quel passage?
Amen.
Comment est-ce que Christ se révèle-t-il dans n'importe quel passage? Donc, toutes les indications de Samuel ont un dessein. Alors, d'abord, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Ça, c'est l'onction, la façon dont le roi était oint. Aussi, la façon dont les sacrificateurs, n'est-ce pas, étaient oints. Donc, la première chose que Dieu révèle à Samuel, à Saül, à travers Samuel, c'est que être roi, commencer à servir Dieu, est une question d'onction.
Amen.
Il faut l'esprit. Il faut que l'esprit nous joigne. Il faut être oint par l'esprit.
Amen.
Et ceci avait beaucoup de signification pour Saül, parce que Saül savait, il connaissait sans doute l'histoire des enfants d'Israël. Il connaissait la pratique d'oindre les sacrificateurs, n'est-ce pas? Et donc ceci n'était pas étranger à Saül. Donc, recevoir une telle onction aurait dû avertir Saül que ceci était quelque chose de Dieu. Donc, quand l'onction était versée, l'huile était versée sur la tête d'Aaron, n'est-ce pas, et elle a coulé sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements, ça veut dire que l'onction a commencé par la tête qui est Christ et elle est descendue jusqu'au bord des vêtements, n'est-ce pas, tout au long du corps qui est le corps de Christ. Donc tout ce que Saül recevait était de Christ qui est la tête pour le corps qui est le peuple de Dieu.
Amen.
Les enfants d'Israël, l'église aujourd'hui. Donc l'onction est de Christ, n'est-ce pas, et pour l'église. Donc la vie de Saül, elle est changée. Ce ne serait plus une vie d'agriculteur, n'est-ce pas, une vie de...
D'éleveur de berger.
Oui, d'éleveur de... berger. mais plutôt une vie qui s'occuperait de Christ et de l'Église. Donc, une connaissance de la tête et une connaissance du corps. Vous voyez, ça c'est la première indication. Ça commence avec la tête. Qui est ma tête? Qui est la tête de Saül? Dieu aurait dû être la tête. Dieu voulait être la tête de Saül. Donc la première chose que Saül a rencontrée dans son onction, dans sa mission d'être roi d'Israël, c'était de connaître la tête. Possibilité de connaître Dieu comme sa tête. Connaître Christ comme notre tête.
Amen.
Deuxièmement, le corps, de connaître le peuple de Dieu. Et Samuel continue. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Donc, l'héritage, qu'est-ce que c'est que l'héritage? L'héritage, c'est quelque chose de très très précieux. C'est ce qu'on hérite. C'est une possession qu'on hérite. C'est un trésor. Et cet héritage était le peuple d'Israël. Donc, être chef de son héritage veut dire que Saül allait s'occuper du trésor de Dieu. Donc, Samuel, dès le début, essayait avec Dieu de planter en Saül, cette connaissance, cette réalisation que tout ce qui lui arrivait venait de Dieu, de la tête, pour le corps, qui était le corps, qui était le peuple de Dieu, qui était l'héritage de Dieu. Un trésor. Ne touchez pas légèrement le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu. Parce que Dieu est très très jaloux. Et plusieurs fois, Dieu Dieu réagit. Dieu seul se permet le droit de châtier son peuple. Ou Dieu seul se donne le droit de parler mal de son peuple. N'est-ce pas? De reprocher son peuple, de réprimander son peuple. Mais qu'un autre parle mal de son peuple, Dieu se lève tout de suite pour reprocher, pour réprimander, pour ne pas supporter ça. Alors, comment est-ce que nous traitons, nous touchons même les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Chaque frère, chaque soeur. Ça c'est, vous voyez, dès le début, nous entrons dans l'église et nos yeux sont ouverts avec les frères et les sœurs. Je suis devant Dieu. Je suis devant un héritage. Je suis parmi un héritage. C'est quelque chose qui coule de la tête sur le corps. C'est l'onction, l'huile qui unit la tête et le corps. Donc, tout ce que la tête reçoit est pour le corps.
Amen.
Tout ce que la tête, tout ce qui est mis sur la tête, coule et atteint tout le corps.
Amen.
Même jusqu'au bord des vêtements, même aux frères et aux sœurs qui nous semblent être les plus petits, n'est-ce pas, même les plus faibles. Cette onction, cette huile, cet esprit n'exclut personne, n'élimine personne. mais atteint chacun. Ça, c'était la réalisation, n'est-ce pas, que Saül, à laquelle Saül était exposé. Il a dû le voir, n'est-ce pas, selon son expérience. Donc, comment est-ce que nous sommes devant le peuple de Dieu? Et Saül avait cette opportunité de connaître le Seigneur et de connaître le peuple, connaître le cœur de Dieu à travers Samuel. Donc, Samuel continue avec cette base, n'est-ce pas, l'onction comme une base, la connaissance de la tête, la connaissance du corps et la connaissance de la préciosité, n'est-ce pas, la combien chère et combien précieuse est cet héritage. Combien précieux est cet héritage avec cette réalisation, avec cette onction. Samuel commence à donner des instructions à Saül, n'est-ce pas? Ok. D'abord, il dit à Saül, intéressant, ok, on va lire les versets, chapitre 10, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Voyez, dans le chapitre 9 et le chapitre 10, la vie de Saül, il semble que la vie de Saül se dirige toujours vers des gens. Il y a toujours des gens, soit des femmes, soit des hommes dans son chemin. Vous voyez, intéressant. Pour connaître Dieu, pour connaître la voix de Dieu, pour le servir, nous devons connaître les hommes, les gens. Devons connaître les enfants de Dieu, connaître les frères et les sœurs. Parce que ce sont ces personnes, ces frères et ces sœurs qui nous amèneront au Seigneur. C'est très détaillé. Tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Selsach. N'est-ce pas? Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Bon, deux hommes près du sépulcre de Rachel. Pourquoi ça? Pourquoi Rachel? Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Ok, Rachel, femme de Jacob, deuxième femme de Jacob, meurt en accouchant, en enfantant un fils qui s'appelle Benjamin, oui, dont Saül est descendant de la tribu de Benjamin. Et en mourant, n'est-ce pas, on a appelé Benjamin Benoni. Benoni, n'est-ce pas, oui, qui veut dire fils de ma douleur. Mais Jacob, plus tard, l'a changé à Benjamin, qui veut dire fils de ma droite, n'est-ce pas, ou fils de ma force. La droite signifie la force, n'est-ce pas? Oups. Donc, ici, Samuel rappelle à Saül, qui était sans doute, qui connaissait cette histoire, n'est-ce pas, que lui, il venait, n'est-ce pas, il descend, il venait d'une ligne ou d'un passé qui était là où il y avait de la douleur, de la faiblesse, mais que il y avait un processus où Benjamin avait expérimenté une transformation ou même un changement de fils de ma douleur à fils de ma force. Alors, vous ne pouvez pas commencer comme fils de ma force. Benjamin n'a pas commencé en tant que quelqu'un qui était fort. Il était le plus petit, souvenez-vous, le plus faible, le plus insignifiant, insignificatif, n'est-ce pas? Le moindre, même de douleur, un fils de douleur, un fils même qui, n'est-ce pas, humainement parlant, a fait que sa mère est morte à cause de lui, n'est-ce pas, en accouchant. Mais un fils qui a subi un changement. Alors, Saül, tu es le plus petit. Tu appartiens au plus petit des tribus. Mais c'est ça ton début. Tu dois reconnaître ton début. Reconnaître tes racines. Reconnaître d'où tu viens. Pour que tu puisses devenir fils de ma droite. N'est-ce pas? Tu ne peux pas commencer fils de ma droite. Tel père, tel le père, tel le fils. Vous voyez? Donc, il y a une éducation ici. Il y a un modèle, un perfectionnement pour Saül, pour se rendre compte de ça. Tu trouveras deux hommes. Pourquoi deux? Parce que deux signifie témoignage, n'est-ce pas? Témoignage. Donc, dans notre expérience, dans la vie de l'Église, il y a toujours des frères qui vont nous faire souvenir, qui vont nous rappeler de notre faiblesse, de notre petitesse. Vous pensez que vous êtes quelqu'un, vous êtes quelque chose dans la vie de l'Église, comme Saül, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va faire quelque chose pour Dieu, il va commencer quelque chose, il y a des frères qui sont là pour vous rendre petit, pour vous rendre, vous dire, souvenez-vous du sépulcre de Rachel. Amen. Souvenez-vous de vos débuts. Amen. Qui êtes-nous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous sommes petits. Amen. Nous sommes fils de douleur. Amen. N'est-ce pas? Pas fils de force. Alors, il y a toujours des frères. Un frère, deux frères, parce que deux, c'est le témoignage. C'est vrai. C'est pas seulement un frère, mais deux pour confirmer que je ne suis rien. Ça, c'est une leçon qui est difficile à apprendre. Parce que quand on vient, on pense qu'on a quelque chose. Et on pense qu'on peut faire quelque chose. Surtout si on est un peu doué. On a un don, on a quelque chose n'est-ce pas, comme Saül, il était assez capable. Vous regardez son humanité, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant. Il avait une bonne humanité. Et donc, avec cette humanité, cette bonne humanité, on peut venir dans la vie de l'Église en pensant qu'on peut apporter quelque chose pour Dieu, pour l'Église. Et donc, la première chose qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a le sépulcre de Rachel. Il y a, n'est-ce pas, il y a la mort de Rachel, il y a la douleur, il y a la petitesse, il n'y a pas la force. Non, qui sommes-nous? Nous sommes faibles. Et nous avons besoin des frères ou des sœurs, bon, pour nous le faire savoir. Parce que normalement, nous ne le savons pas ou nous ne voulons pas le savoir. Alors, il faut des frères pour parfois pour apaiser notre zèle ou pour nous, même nous irriter, même nous nous agacer, pour que nous puissions nous rendre compte que nous ne sommes rien. Ça, ce sont des leçons. Bon, une jeune église, c'est pas, c'est pas facile. Je me souviens quand j'étais jeune frère, entrant dans la vie de l'église, et j'étais zélé, et je prêchais l'évangile, et je voulais témoigner dans chaque réunion. Même j'ai dit au Seigneur, j'ai fait un vœu au Seigneur que je témoignerai dans chaque réunion, c'est pas pour je fonctionnerai, je voulais, j'étais ardent pour le Seigneur, et donc je disais quelque chose, et il y avait parfois des frères, un frère qui invoquait le nom du Seigneur chaque fois que je témoignais. J'aimais pas ça. Parce que invoquer le nom du Seigneur, oui, pas de problème. Mais quand un frère est en train de témoigner, ça me donnait la pensée que tout ce que je disais était faux. Et que ce frère priait. Oh Seigneur, que ce frère il parle, qu'il dise pas des bêtises, ou qu'il parle selon le Seigneur, selon toi. Autrement, pourquoi est-ce qu'il invoquait le nom du Seigneur? Mais ça m'irritait. Et je voulais demander au frère, mais je ne pouvais pas parce que... Bon, qu'est-ce que j'allais dire au frère? N'invoque plus le nom du Seigneur. Alors, je suis allé au Seigneur, je n'aimais pas, mais j'étais irrité, n'est-ce pas? Et puis, il y avait d'autres frères, parfois, n'est-ce pas, tout de suite après mon témoignage, un autre frère se levait pour témoigner, et même pour ajouter, ou même, mais il me semblait, pour renverser, pour contredire, ou pour donner l'autre facette, oui. Mais moi, j'ai libéré mon fardeau, alors je veux que tout le monde ajoute. Amen. Ou renforce mon fardeau, pas donner l'autre facette, parce que comme ça personne ne saura, alors personne ne se rendra compte de ce que moi j'ai partagé, n'est-ce pas? toutes ces choses là mais ce sont des choses qui nous agacent, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses là le Seigneur, ce sont les frères, les deux hommes au sépulcre de Rachel, n'est-ce pas? Qui sont là pour nous agacer, pour nous rappeler. Vous pensez que vous avez quelque chose, D'accord, mais vous devez apprendre à être près du sépulcre de Rachel.
Amen.
Vous voyez, tout ça, c'est pour notre perfectionnement.
Amen.
Notre transformation.
Amen.
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 Donc, là, ces deux hommes, n'est-ce pas, ils disent à Saül, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Comme nous l'avons dit hier, je pense, n'est-ce pas, encore une fois, pour nous rappeler que notre quête, notre recherche, notre poursuite, nos efforts n'aboutissent à rien. C'est-à-dire que tes ânesses sont déjà retrouvées. Qui les a retrouvées? On ne sait pas, n'est-ce pas? Qui les a retrouvées? La Bible ne le dit pas. Mais pour nous dire que Dieu a déjà retrouvé tes ânesses.
Amen.
Tu n'as plus besoin de les rechercher. N'est-ce pas? Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau toi-même. Parce que Dieu s'en est déjà occupé. Cesse, arrête ta quête pour tes ânesses. N'est-ce pas? Bon. Bon, prochaine étape, de là, verset 3, tu iras plus loin. Vous voyez, donc, dans la vie de l'Église, nous allons toujours plus loin.
Amen.
Nous avançons.
Amen.
Vous voyez, de là, tu iras plus loin. Ne t'arrête pas là. Tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Waouh. Saül, qu'est-ce que Saül demandait de plus? Vous voyez, tout était pourvu à ses besoins pour qu'il puisse rencontrer Dieu.
Amen.
Même face à face. Alors, tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Alors, maintenant, c'est trois hommes, n'est-ce pas? Pas deux, mais ici, c'est trois. Trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Bethel, c'est là où Jacob avait eu la vision, n'est-ce pas? De l'échelle, n'est-ce pas? Jusqu'au ciel. Et les anges montant et descendant. C'est là où Jacob s'est rendu compte, ceci est la maison de Dieu.
Amen.
C'est là où Dieu habite. Donc, vers Dieu, à Bethel, veut dire que maintenant, Saül doit aller, pas seulement, il doit aller du niveau de connaître sa petitesse, sa faiblesse, jusqu'à Dieu se rendre compte que Dieu est à Bethel. Dieu habite dans sa maison. Dieu a une demeure. Dieu, même cet héritage, n'est-ce pas, dont Samuel a parlé dans le verset 1, cette onction qui a coulé jusqu'au bord des vêtements est même la demeure de Dieu. Pas seulement un trésor, pas seulement quelque chose de précieux, mais même plus une maison, une habitation où Dieu demeure.
Amen.
Le Dieu des cieux à Bethel, où il habite. Donc, allez vers Dieu. Hein? Tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu. Donc, il y aura trois hommes qui iront vers Dieu. Mais où? À Bethel. Donc, les frères, n'est-ce pas, et les sœurs, sont là pour nous faire arriver vers Dieu.
Amen.
Mais pas seulement vers Dieu, mais vers Dieu à Bethel.
Amen.
Pour nous ramener à la maison de Dieu.
Amen.
Qui est l'Église.
Amen.
Là où Dieu demeure. Bon. Et avec la maison de Dieu, la demeure de Dieu, il y a un riche approvisionnement.
Amen.
Donc, vous avez les trois chèvreaux, n'est-ce pas?
Amen.
Trois gâteaux de pain et une outre de vin.
Amen.
Il y a quoi? Il y a les trois chèvreaux, n'est-ce pas? Là, trois chèvreaux. Donc, indiquant le sacrifice, n'est-ce pas, sacrifice de Jésus-Christ, et aussi le fait que nous puissions le manger, jouir de lui. Il est notre approvisionnement.
Amen.
Donc, la viande, parce que les chèvreaux, n'est-ce pas, la viande pour nos péchés, n'est-ce pas, pour nous rappeler que nous avons été rachetés. Il y a eu un sacrifice. Et le pain, n'est-ce pas, pour la vie, nous donner de la vie. Et le vin, pour la joie.
Amen.
N'est-ce pas, la joie. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, la viande, le pain, Jésus qui est le pain de vie, n'est-ce pas, et le vin qui est notre joie.
Amen.
Parce que le vin, n'est-ce pas, rend joyeux. Oui. Donc, ces trois choses, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, il y a l'œuvre de Jésus-Christ, la rédemption de Jésus-Christ,
Amen.
La vie dispensée de Jésus-Christ,
Amen.
Dispensée en nous,
Amen.
Et la joie, n'est-ce pas, que nous avons, que nous éprouvons dans la maison de Dieu.
Amen.
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 Ah, tous ces versets-là sont pleins de signification, n'est-ce pas?
Amen.
Vous pouvez y aller, vous voyez? Donc, tout ça pour rendre Samuel à une expérience de Dieu lui-même, n'est-ce pas?
Saül,
je m'excuse. Oui, de rendre Saül à une expérience de Dieu lui-même. Aucune excuse. Et de même avec nous, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit hier, à la fin, n'est-ce pas? On peut venir, on peut... Et c'est surtout avec des nouveaux, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là pour la première fois ou ceux qui ne viennent pas aussi souvent. Mais on vient, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur? On peut venir même. Et semaine après semaine. Et on est avec les frères. On est dans la maison. On est parmi tous les approvisionnements. Tout est là. Mais est-ce que nous saisissons le Seigneur lui-même? Tout est là pour nous amener au Seigneur. Mais c'est possible d'avoir toutes ces choses-là et de, n'est-ce pas, de dépasser le Seigneur, d'éviter le Seigneur, n'est-ce pas, de nous détourner du Seigneur. Alors, donc, avec ça, n'est-ce pas, avec la maison de Dieu, avec l'approvisionnement que Saül doit recevoir de leurs mains, il y a aussi l'avertissement. Il y a un ennemi. Il y a le troupe, n'est-ce pas, ou une garnison de Philistines. le Philistin, n'est-ce pas, qui est là. Donc, qui sont les Philistins? Et ça, c'est dans l'histoire des enfants d'Israël. Dans 1 Samuel, 1 Samuel, n'est-ce pas, même plus tard, les Philistins sont un peuple très, très intéressant. C'est un peuple qui ne s'éloigne pas. C'est un peuple qui, vous pouvez les battre, vous pouvez même les remporter des victoires, ils sont toujours là. Je me demande, en lisant la Bible, ils avaient été exterminés même. Plusieurs fois, il paraît, il semble. Mais ils reviennent quelques chapitres plus tard. Comment est-ce qu'ils ont pu ressusciter ou se multiplier? Il paraît qu'ils se multiplient, n'est-ce pas? Et là, on a fait même une étude avec les jeunes à Montréal. On a passé une semaine ou un jour, un samedi, à parler des Philistins. Qui étaient ces gens-là? Bon, descendants de Ham, n'est-ce pas? Non, Genèse, la Genèse chapitre 11. Philistins, le mot en hébreu, veut dire littéralement celui qui lèche tout. C'est comme un chien qui lèche tout, ou comme un feu qui consume tout dans son chemin, n'est-ce pas? Les Philistins étaient forts, étaient vaillants, et ils étaient à côté des enfants d'Israël, sur la côte de l'ouest d'Israël, donc actuellement le Gaza, là où le Gaza se trouve, n'est-ce pas? Ce sont les Philistins, c'est là où ils habitaient. Et Dieu, dans ses ordres aux enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu avait dit à Josué, aux enfants d'Israël, de battre, d'exterminer, n'est-ce pas, de détruire cette tribu, cette nation, n'est-ce pas? Et bien sûr, les Amalécites. Plus tard, même, Saül devait le faire. Mais les Philistins, à l'époque-là, à ce moment-là, n'étaient pas. Il n'y avait aucun ordre de les détruire. N'est-ce pas? Donc, pour occuper la terre, les Philistins ne faisaient pas partie de cette catégorie de l'ennemi. Les nations, pourquoi les sept tribus, ces sept nations-là? Parce que c'était des païens. C'était des idolâtres. Ceux qui pratiquaient l'idolâtrie. N'est-ce pas? Des idoles, des pratiques atroces, même de brûler leur fils, n'est-ce pas? Tout ça, Dieu ne voulait que son peuple n'ait aucun lien avec tout ça. Donc, tout ça devait être exterminé. Mais les Philistins étaient un peu différents. Eux aussi, ils avaient leur dieu, Dagon. C'est pas l'un de ceux, oui. Mais les Philistins reconnaissaient aussi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils reconnaissaient l'efficacité, la puissance du Dieu d'Israël. Quand ils le voulaient, n'est-ce pas? Quand ça correspondait à leurs besoins, à leur volonté. Ils ont reconnu, ils étaient intelligents, ils ont reconnu que l'arche de Dieu était très importante. Chaque fois que les enfants d'Israël marchaient en bataille, allaient en bataille avec l'arche, ils remportaient la victoire. Ben alors, donc ils voulaient l'arche. N'est-ce pas? Et puis plus tard, n'est-ce pas, quand ils ont capturé l'arche, et ils ont mis l'arche dans leur temple de Dagon, et Dagon est tombé, n'est-ce pas, deux fois, devant l'arche. Et puis plus tard, les Philistins ont souffert, n'est-ce pas, des maladies. Oui. Ils savaient que l'arche en était responsable. Donc, ils ont demandé, n'est-ce pas, à leur diviniste. Et même la manière proposée par les divinistes de faire des souris, n'est-ce pas, d'or, comme un sacrifice, n'est-ce pas, comme un, pour apaiser Dieu. Nous montre un peu la mentalité des Philistins. Donc, ils prenaient, de quelque sorte, ils savaient qu'il fallait un sacrifice, comme les enfants d'Israël, comme le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Et ils connaissaient aussi l'histoire des enfants d'Israël, ce que Dieu avait fait avec les avait fait aux Égyptiens, n'est-ce pas? Donc, ce sont des gens qui ont une reconnaissance de Dieu, une reconnaissance superstitieuse, quand ça les profite, n'est-ce pas? Quand ça leur convient, sans Dieu lui-même, sans connaître Dieu lui-même. Et voilà pourquoi ils sont très proches des enfants d'Israël. Pas seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Les Philistins et les enfants d'Israël sont très très proches les uns aux autres. Ce sont des amis, n'est-ce pas? Ce sont des amis même. Parfois, ce sont des ennemis, mais aussi des amis. Donc il y a même un rapport d'amour-haine. Vous comprenez? D'amour-haine. Ils se détestent, ils se battent les uns contre les autres, mais à d'autres moments, oui, n'est-ce pas, ils s'entendent. Il y a même Samson, n'est-ce pas, qui a fait alliance avec les Philistins. Et il s'est même marié, n'est-ce pas, avec une Philistine, n'est-ce pas. Donc, il y a ce rapport intéressant entre les Philistins et les enfants d'Israël. Les Philistins sont difficiles à éliminer. D'une certaine façon, les autres tribus, nations, sont faciles. Dans le chapitre 11, Saül élimine les Ammonites facilement. Il n'a même pas besoin de Dieu pour faire ça. Enfin, sa manière d'agir, la Bible ne le dit pas, ne porte pas de jugement, n'est-ce pas? Et même Samuel ne fait pas de remarques concernant la manière. Donc, la manière dont vous voyez ça, ça peut être différent, n'est-ce pas? Mais le fait, c'est que les Ammonites c'était facile. Pas besoin de Dieu. Mais les Philistins ne s'échappent pas. Ils ne s'éloignent pas. Ils vont être là. Donc ici, les Philistins sont là. Saül, c'est sa première vue, vision des Philistins. Une garnison, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, à ce moment de sa vie. Je ne pense pas qu'il avait vu des Philistins avant. Là, il y a une garnison de Philistins. Mais en même temps, il y a un groupe de prophètes, n'est-ce pas, avec des instruments. Donc, tout au milieu des Philistins, il y avait des prophètes avec des instruments de musique. Ce qui nous rappelle un peu David, peut-être, n'est-ce pas, avec sa harpe. Oui. Et dans la vie de l'Église, les Philistins sont là, même en nous. N'est-ce pas? Là, le sang des Philistins, la nature des Philistins, même, est en nous, tellement proche. Et donc, Saül, mais au milieu de la ville, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu trouveras une garnison de Philistins en pleine ville, même au centre-ville peut-être. Ils sont là, visibles. Donc, les Philistins sont là, en nous. Cette reconnaissance de Dieu, superstitieuse, mais Dieu est là. Il ne rejette pas Dieu, le Dieu d'Israël. Ils vont s'en servir à leur gré quand ça leur convient, n'est-ce pas? Et Samuel avertit Saül dans cette indication que tu verras des Philistins, mais en même temps tu verras des prophètes qui vont probablement, n'est-ce pas, avec des chanteurs, n'est-ce pas, jouant de la musique et prophétisant eux-mêmes. Donc la manière de vaincre, de résoudre le problème des Philistins, c'est la prophétie, prophétiser, jouer de la musique, n'est-ce pas? Chanter, autrement dit, pas notre façon, la façon d'un soldat, n'est-ce pas? De vaincre, de combattre, mais de parler pour le Seigneur, de connaître le Seigneur, ce qui est dans le cœur du Seigneur, et de le proclamer, de le chanter, n'est-ce pas? D'être dans l'esprit, voyez, pour pouvoir vaincre l'ennemi, les Philistins. Avec l'onction, donc vous voyez, ce sont des étapes, l'onction de l'esprit dans le verset 1, n'est-ce pas, l'esprit, la connaissance de Christ comme notre tête, n'est-ce pas, la connaissance du corps de Christ, le peuple de Dieu, comme le trésor, comme l'héritage, la reconnaissance de ce que nous sommes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles, la reconnaissance de Dieu qui a sa maison, son habitation, sa demeure, et dans cette maison, il y a un approvisionnement abondant. Amen. Qui est pour nous et devant nous est l'ennemi, les Philistins. Mais avec toutes ces provisions de Dieu, il y a des prophètes, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, n'est-ce pas? Comment vaincre l'ennemi? C'est ça notre moyen, c'est ça le moyen que Samuel, Dieu est en train de montrer à Saül, n'est-ce pas? Oui, Dieu est en train de montrer à Saül. Toutes ces provisions sont là pour que tu puisses prophétiser, n'est-ce pas, jouir du Seigneur, de Dieu, et chanter, ça veut dire louer, louer Dieu. Comment est-ce que tu vas vaincre Saül? Ça, c'est le moyen. Ça devrait être ta vie. Et David a expérimenté cela. Alors, dans les songes, maintes fois, il dit « Dieu est, n'est-ce pas, ma joie. Dieu est ma force. Dieu est... Dieu était sa joie, la raison de sa vie, la raison de vivre. » Même la manière dont David traitait ses ennemis, n'est-ce pas, c'était avec le Seigneur, comme sa force, comme sa protection, comme son refuge, comme sa joie, comme son approvisionnement. Donc, même il peut dire dans Psaume 23, n'est-ce pas, tu as créé une table devant, une table dans le désert, devant mes ennemis. N'est-ce pas? Comment est-ce que... Apparemment, c'est une contradiction. N'est-ce pas? Une table, on n'a pas besoin d'une table. On a besoin d'une épée, d'une lance, n'est-ce pas? D'un fusil pour défaire l'ennemi. Mais une table dans la présence, oui. Dans la présence de mes ennemis, n'est-ce pas? Ça, c'est la connaissance, la vraie connaissance de Christ, la vraie connaissance du Seigneur. Et Samuel continue, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. N'est-ce pas? Donc, vraiment, ça, c'est positif, n'est-ce pas? Même nous, c'est notre expérience, n'est-ce pas? Quand l'esprit, nous sommes avec les frères, dans la maison, entourés des frères et des sœurs qui jouissent du Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui arrive en nous.
Amen.
N'est-ce pas? Qui nous fait libérer quelque chose pour le Seigneur.
Amen.
Alors, ça c'est toujours et avec joie, avec des chansons.
Amen.
N'est-ce pas? Avec la musique.
Amen.
Et même nous devenons un autre homme.
Amen.
Nous pouvons dire, Seigneur, ma vie a changé.
Amen.
Je suis différent, n'est-ce pas? Je ne suis pas le même que j'étais avant. Je ne suis pas la même personne que j'étais avant. J'ai changé.
Amen.
Donc, voilà les signes, n'est-ce pas, que, et même Samuel dit lui-même, il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire.
Amen.
Pourquoi? Parce que Dieu et avec toi.
Amen.
Quoi de plus avait Saül avait-il besoin? De quoi de plus? N'est-ce pas? Bon. Puis, tu descendras avec moi, avant moi, à Gilgal. Ah, à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Intéressant. Tu descendras avant moi à Gilgal. Gilgal, c'était où? Gilgal, c'est là où Josué, oui. Oui, très bien. Et c'est là où tous les enfants d'Israël, les mâles, ont été circoncis par Josué avant de traverser le fleuve, le Jourdain, pour entrer dans la terre promise. N'est-ce pas? C'est la circoncision de la chair. Et donc, la chair, l'état, une autre état, plus profonde, c'est de descendre. N'est-ce pas? Tu descendras. Pas monter, tu ne monteras pas, mais tu descendras avant moi à Gilgal. Tu vas te faire couper la chair, n'est-ce pas? Et moi, je viendrai après toi, puis je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes, les sacrifices. Et tu attendras 7 jours. Ceci est très très intéressant. Pendant longtemps, j'ai essayé de lutter avec pourquoi attendre Samuel. Oui, 7 jours. Pourquoi attendre Samuel? Pourquoi faire? La réponse se révèle dans le chapitre suivant, je pense, ou 12. Mais même 11, il y a un peu de lumière. Mais pourquoi 7 jours? Qu'est-ce qui va arriver? Ok. Je passe. Il est presque midi et demi, mais je passe vite au chapitre 11. Ok. Et j'en ai déjà parlé un peu. Chapitre 11, ces deux chapitres, ou ces trois chapitres, 10, 11 et 12, ne suivent pas l'ordre chronologique, apparemment. Ok. 11 est juxtaposé, 11 est inséré entre 10 et 12, mais pas chronologiquement. 12 devrait suivre 10 chronologiquement. Parce que dans 12, qu'on va lire, soit cet après-midi peut-être, ou 12, c'est la guerre contre les Philistins, n'est-ce pas? 11, c'est la guerre contre les Ammonites, qui a eu lieu probablement avant 10, n'est-ce pas? Avant le chapitre 10, ou avant que Samuel dise à Saül de l'attendre 7 jours. Chapitre 11 nous raconte, comme on l'a vu, la défaite des Ammonites par Saül. Il a agi vite, fort, d'une façon très décisive, n'est-ce pas? Il n'a pas consulté l'Éternel, mais il a accompli quelque chose, il a remporté une victoire, n'est-ce pas, qui a été fêtée par tout le monde. Et même Samuel est venu pour dire, ok, maintenant il faut confirmer la royauté. Donc, est-ce qu'on peut critiquer Saül de ne pas consulter Dieu? Ok, oui, peut-être que oui, peut-être que non, mais le fait c'est que les Ammonites, Saül les a traités assez. Il a réussi. Il a bien réussi. Mais avec un autre ennemi, celui que nous avons vu dans le chapitre 10, n'est-ce pas? Les Philistins. Ce ne sera pas aussi facile. Et donc, Samuel dit à Saül de descendre à Gilgal, d'expérimenter. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a la mort de la chair et il y a l'attente de Samuel, attendre le prophète 7 jours avant d'agir. Tu ne pourras pas agir comme tu as agi avec les Ammonites. Ça ne va pas marcher. Cette fois, c'est différent. Saül peut aller jusqu'à un certain point sans Dieu. Pas mal ça, n'est-ce pas? Même sa foi, si vous... Sa foi en Dieu, sa bonté, n'est-ce pas? Son zèle. Parce qu'il savait que Dieu était là, n'est-ce pas? Il n'ignorait pas Dieu. Et il avait une certaine foi, un certain zèle qui pouvait l'amener jusqu'à un certain point. Mais après ce point-là, il avait besoin de Samuel, de quelque chose d'autre, de plus, pour qu'il puisse agir, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse continuer d'agir. Et il fallait attendre Samuel. Donc, ça, c'est le chapitre 12, n'est-ce pas? Et donc, nous arrivons à ce point-là, dans la vie de Saül. Il est amené par Samuel à travers toutes ces étapes pour lui fournir les moyens de connaître l'Éternel, d'être avec les frères, d'expérimenter la rédemption de Christ, Amen. N'est-ce pas? L'approvisionnement, Amen. Dans la maison, la vie de Christ, même la joie. Amen. Même, il est changé. L'esprit, n'est-ce pas? Le saisit, n'est-ce pas? Et il va prophétiser avec eux, avec les frères. Donc, il va tout faire, tout ce que les frères font. Et il va même battre l'ennemi, les Ammonites. Il va réussir. Mais il arrivera un moment où il ne pourra plus continuer comme ça. Il a besoin de quelque chose de plus. Et ça, c'est le chapitre 12. Amen. Donc, voilà un peu, oui. Yeah.